Vous êtes sur RTL.
Xavier Couture, un point c'est tout, donc toute la semaine avec nous en studio, en attendant le retour d'Alba Ventura, on le rappelle, lundi prochain, on l'embrasse d'ailleurs. Alba, Barcelone PSG, on en parle avec vous, Florian Gazan ouais. Également, vous allez le suivre aussi vous ce match.
Ah oui, j'ai le commenté même.
Ça vous a intéressé la difficulté de gérer le PSG
Je connais ça, oui, on connaît des excédures. Hein.
Alors donc ce soir effectivement le match, et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi le Barça en l'occurrence joue en rouge et bleu.
Ouais.
Alors que le drapeau de la Catalogne est sang et or.
Oui, ce maillot mythique hein, porté par Cruyff, Maradona, Ronaldinho, parce qu'il y a des boîtes aussi à Barcelone. Messi, hein, bleu et rouge, Blaugrana, comme on surnomme les joueurs du Barça, le club qui se revendique à 1000% catalan, en opposition à celui du roi, le Real Madrid. Et pourtant, à l'origine, il est surtout 100% étranger, le FC Barcelone, raison pour laquelle son maillot n'a rien de catalan.
Alors comment ça, 100% étranger ?
Eh bien, ses fondateurs ne sont pas catalans, ni même espagnols. Non, d'un côté, il y a des Anglais, les frères Arthur et Ernest Whitty, venus faire fortune grâce aux mines de cuivre et d'étain. Eux, à l'origine, ils jouent au rugby. Mais le problème, c'est qu'en Espagne, à l'époque, il n'y a pas de terrain pour le pratiquer. Donc, ils se rabattent sur le foot.
Et de l'autre côté, il y a qui ?
Alors, il y a un Suisse, qui s'appelle Hans Gamper, installé à Barcelone comme expert comptable, mais qui s'est rebaptisé Johan pour faire un petit peu plus couleur locale. Gamper, à l'époque, c'est aussi l'un des meilleurs joueurs de foot helvète. Pour continuer à taper dans le ballon, il contacte un club de quartier qui refuse son inscription car ils ne prennent que des Catalans. Qu'importe, il décide de monter son club à lui. Il passe une petite annonce dans un journal pour trouver des joueurs, à laquelle répondent entre autres les frères Whitty. C'est comme ça que le 28 novembre 1899 naît officiellement le Football Club Barcelone. Et il faut maintenant lui trouver un maillot.
Évidemment. Et donc choisir des couleurs.
Voilà, alors Arthur Whitty propose de s'inspirer des couleurs de l'équipe de rugby universitaire avec laquelle il jouait, celle de la Merchant Taylor School au nord de Londres, dont les couleurs sont, je vous le donne en mille, le bleu et le rouge. Couleur validée par Johan Gamper, car hasard total, il avait joué au FC Ball en Suisse, dont les couleurs sont exactement les mêmes. C'est ainsi que le FC Barcelone joue son premier match avec un maillot bicolore, d'un côté bleu et de l'autre rouge.
Donc le maillot de Barcelone à la base, si on comprend bien, c'est un maillot anglais.
Exactement. Précisément une chemise d'ailleurs, car au début du siècle, il n'y avait pas encore
très
de maillot.
Classe.
Ouais, très classe, avec un petit col. Il y avait d'ailleurs un clin d'œil à cette origine sur l'écusson du club, qui est encore aujourd'hui sur le maillot. Si vous le regardez précisément, vous verrez qu'à côté du drapeau catalan, il y a une croix rouge sur fond blanc. C'est la croix de Saint-Georges, l'emblème de l'Angleterre, mais aussi celle de la Catalogne qui, sous le nom de Sant Jordi, a fait sienne cette légende d'un chevalier qui terrasse un dragon pour sauver une princesse, en espérant que ce soir le chevalier ce soit le PSG.
Exactement.
Et le dragon le FC Barcelone.
Merci beaucoup Florian Gazan. Donc on rappelle, 21h c'est le coup d'envoi Barcelone-PSG, soirée spéciale sur RTL dès 20h45, peut-être jusqu'à 23h, 23h30
avec des prolongations,
minuit en cas de tir au but. En tout cas vous ne raterez rien.
1h du mat en cas de fête, descendre sur les Champs-Élysées
en direct et en intégrale sur RTL autour de Jean-Michel Rascol. Marina Girardot, c'est à vous, la pluie et le beau temps. On va partir et voyager ce matin, mais pour une catastrophe assez majeure, puisque ça fait deux semaines maintenant que des inondations impressionnantes sévissent à la frontière de la Russie et du Kazakhstan. Et par endroits, l'eau continue de monter. Qu'est-ce qu'il se passe exactement ?
Alors en fait, c'est dû à l'accumulation de plusieurs facteurs. Il y a eu de fortes précipitations. En plus de cela, les températures ont grimpé. Cette hausse du thermomètre a duré et fait fondre la neige rapidement. Il faut savoir qu'au sud-ouest de la Russie, limite du Kazakhstan, il y a une chaîne de montagnes, les monts Oural. Il y a aussi la glace qui est présente sur les fleuves et les rivières qui a aussi fondu. Donc imaginez l'eau qui tombe du ciel, l'eau provenant de la neige fondue, l'eau provenant de la glace qui fond, tout ça en même temps. Ça a fait déborder les cours d'eau qui ont inondé des villes entières.
Et la pression de l'eau était telle qu'une digue même a rompu.
Oui, le fleuve Oural a tellement reçu d'eau que la pression a rompu une digue, c'était au début du mois, qui a inondé une grande partie de la ville russe, Orsk. Certaines maisons étaient inondées jusqu'au toit. Le fleuve Oural, qui traverse aussi la ville d'Oranbourg, toujours en Russie, il y a frôlé un niveau jamais atteint, presque 12 mètres ce week-end, sachant que le seuil critique est fixé à 9,30 m et que le record est de 9,46 m, c'est il y a plus de 80 ans, en 1942. Là, il vient tout juste de commencer à baisser.
Mais ça n'est pas fini pour autant ?
Non, parce que la situation devient critique plus à l'est. Deux régions, Kourgan et Tioumen, qui attendent leur pic de crue là, pour le milieu de la semaine. Les autorités envisagent des évacuations forcées, car de nombreux habitants ne veulent pas partir.
Et est-ce qu'on a une idée déjà des dégâts causés ?
Alors, c'est un peu tôt, mais je peux déjà vous donner le nombre de personnes déplacées au Kazakhstan. Chiffre donné par les autorités, plus de 100 000 personnes, dont un tiers sont des enfants. Pour la Russie, vous pensez bien, on n'a pas de chiffre global, mais c'est là aussi des milliers de déplacés sur plusieurs villes, et ce n'est pas fini.